But if you tell you die a sickle cell, God told me you're going straight to hell. Well, if you don't like it, I can leave. Then you'll be alone. Believe me, that's what the creepy monsters want. Plus, I'll be taking your TV. Put on your jammers and don't wet the bed. I got a camera. I'll take a picture and show that little girl you like, Sarah. Oh, and one more thing. There's been several mass murderers spotted in the area.
I'm a bad babysitter. Got my boyfriend in your shower. Woo. I'm making $6 an hour. I'm a bad babysitter. Got my boyfriend in your shower. $6 an hour.
Let's make fluff ananas. Don't fucking add another peep. I'll take the cookie cutter, make soft cookies that he skin while you sleep. Keep still, I gotta check the bathroom cabinet. Hey, what are these pills? I'll take the value dust, you take a bag of the tag of it. Stop throwing up, I'm not paid enough. You clean up the rugs, that fluff. I told you $6 of the unmade jello was too much. Hi, kid, you gotta go to bed. I know it's only six, but my boy just came up and he wants me to give him head. Sit his bare ass on the couch, really watch Small Wonder. Next time you see Vicky, the spot'll be sticky, cause I start to dig and use your mom's cucumber. Don't worry, I'll put it back in the frigidaire. Scared, you can have it for supper, nice and crisp in the Tupperware. No bedtime story, Gabe, get off, you're so horny. Josh, get in bed, Freddy Krueger, but let you see your mom in the morning. No porn and shut the shade, Gabe. One day you know how nice it is to get laid while you're getting paid.
I'm a bad babysitter, got my boyfriend in your shower. Woo, I'm making $6 an hour. I'm a bad babysitter, got my boyfriend in your shower. Woo, I'm making $6 an hour.
I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out. Into outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan. On an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Oh yeah. Shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm
place, find another race. I'm gonna send him to outer space.
Il est 20h05 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission mardi 18 novembre. On est tous heureux de vous retrouver en ces temps frisquettes, j'ai envie de dire. La douceur angevine nous a quitté cette semaine et on est de retour dans le dur, dans le froid. Malgré ça, trois personnes ont réussi à braver le froid et à arriver jusqu'au studio. Il y a Paul d'abord, salut Paul.
Salut Faustin, comment tu vas?
Ça va très bien et toi?
Ça va très bien, encore un bon petit week-end de sport avec du rugby et du foot, ça faisait plaisir.
Bah nickel. Robin est avec nous aussi, salut Robin.
Ouais, salut Faustin, salut à tous. Fait plaisir d'être encore là, voilà. Débattre de sport comme on aime, donc c'est cool.
Ouais, tout à fait, pardon, je regardais, je crois qu'on avait un problème technique, mais tout va bien. Oui, semaine de sport, tout à fait. En plus, tu nous feras un magnifique petit quiz en
exactement.
Fin d'émission. Donc pour nos auditeurs, évidemment, restez jusqu'au bout pour jouer avec nous sur le chat. Le dernier qui était avec moi, qui avait oublié le code du studio après deux semaines d'absence, qu'est-ce qui s'est passé, Paulin?
Hey, salut Faustin, bonsoir à tous. Et oui, les deux semaines qui m'ont fait mal parce que j'étais carrément bloqué dehors avant de rentrer. Mais bon, les gars sont arrivés, j'ai pas attendu longtemps dans le froid, donc bon, tout va bien. Et le week-end était bon, pour ma part, sur les pelouses de Pélois et Corzay en R2. Donc voilà, on a vu un bon petit match, victoire de Pélois 3-1 face à la NDC dans un petit derby de régional.
Tout à fait.
Tout ce qu'on aime hein, dans le foot local.
Voilà, ça va nous faire arriver sur l'actualité locale, qui sera notre premier sujet, comme tous les soirs, vous en avez l'habitude. On parlera aussi de différentes équipes de France en rugby et en football, un peu de tennis, un peu de NBA. Et comme je vous l'ai dit, on finira sur un petit quiz. On parlera du SCO et de l'actualité sportive de la semaine. Et ben on va commencer sans plus tarder avec une victoire de l'EAB contre Poissy, 84-79. Quatrième victoire de suite pour les Angevins qui se retrouvent à la sixième place avec un bilan de 7 victoires pour 5 défaites. On est presque à la moitié de la première phase. Et si ça continue comme ça, l'EAB est en bonne voie pour se qualifier en poule haute pour la deuxième phase. L'UFAM n'a pas joué et reprendra du service mercredi prochain en Coupe d'Europe. Du côté de Cholet, c'est une défaite cruelle contre Nanterre sur le score de 76-78. Après une très bonne première période, les Choletais se sont totalement écroulés dans le troisième quart-temps, subissant un 13-29. Ils s'inclinent finalement de deux petits points. Ils ont l'occasion de se relever demain en Coupe d'Europe contre Bursaspor. Du côté du SCO handball, défaite là aussi 41-32 contre Cournon d'Auvergne, une défense qui a eu beaucoup de mal dans cette rencontre, ce qui explique en grande partie le résultat. Du côté du SCO rugby, grosse victoire là, 47-16 contre le dernier de la poule Blois, une grosse victoire qui met en confiance et consolide la troisième place du SCO rugby en Fédéral 3 avec 27 points. On va passer à la grosse actualité locale de cette semaine, c'est l'Éduc, parce que de vendredi à dimanche à l'Ice Park accueillait la demi-finale de la Continental Cup, la Coupe d'Europe de hockey sur glace bien sûr, à laquelle participait évidemment l'Éduc, qui fallait finir dans les deux premières places de sa poule pour aller en finale. Je vais donc donner les résultats du week-end avec pour ouvrir cette demi-finale le club italien de Cortina qui s'est imposé 5-3 contre le club roumain de Giorgeni. Dans la foulée, les Ducs sont bien rentrés dans leur tournoi en s'imposant 6-4 contre Riga. Le samedi encore, Riga a d'abord remporté son match contre Cortina et les Ducs enchaînent une deuxième victoire 3-2 contre Giorgeni. Enfin, le dimanche, Riga s'est imposé contre les Roumains 6-2 et en clôture de ce beau week-end de hockey, les Ducs se sont malheureusement inclinés 3-4 contre Cortina. Pas de sans faute pour eux malheureusement, mais ça suffit quand même pour se qualifier pour la finale de la Continental Cup qui aura lieu du 14 au 17 janvier à Nottingham. Autour de la table, on a pensé quoi de cette demi-finale de Continental Cup qu'on a eu la chance donc d'accueillir à Angers à l'Ice Park?
Est-ce que quelqu'un a un peu suivi, on va dire, déjà les résultats du hockey? Les gars, je me tourne vers vous. J'ai pas trop suivi, moi, personnellement, ouais. Les Ducs. Après, j'ai vu les résultats, je les ai lus dans le journal, et j'étais content aussi de savoir qu'ils pouvaient, ils se rendront à Nottingham. En plus, c'est cool aussi qu'ils puissent se déplacer comme ça. Et puis, si jamais ils arrivent à avoir un peu de public, des gros fans des Ducs se déplacer pour qu'ils aient un peu de soutien, ce serait cool.
Il va sûrement arriver, ouais.
Mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas Cédric qui aurait été le mieux placé pour nous en parler ce soir, mais en tout cas c'est forcément un résultat qui fait plaisir, ça c'est sûr.
Moi je rejoins Paulin aussi, j'ai pas du tout suivi les actualités sur les Ducs, mais comme je suis tout à fait d'accord avec toi, j'espère qu'il y aura du monde, puis il les suivra à Nottingham, ça pourra peut-être permettre de créer un exploit.
Tout à fait.
Je suis comme vous, les gars, je vais pas vous mentir.
Je suis pas le plus grand fan de hockey.
Je suis les scores comme pas mal d'Angevins, mais c'est pas le sport numéro un qui me passionne. Forcément, si Cédric avait été là, il aurait pu mieux nous en parler.
On ne doute pas, il a dû suivre ça lui avec passion. Je ne sais pas s'il a pu voir un match, il me semble pas. Mais ouais, en tout cas, Cédric doit être ravi de cette qualification et de cette première place des Ducs devant leur public. C'est juste dommage qu'on n'ait pas eu cette victoire en dernière journée pour clôturer ce week-end. Ça avait pourtant bien démarré. Les Ducs avaient ouvert le score, mais se sont malheureusement fait rattraper contre Cortina. On se donne rendez-vous donc le 14 janvier prochain, ce qui sera la date d'anniversaire de mon papa au passage. Voilà,
tous les éléments sont réunis pour une belle victoire.
C'est ça, on espère voir les Ducs seuls soulever cette Continental Cup. On va enchaîner directement, voilà, la fin des actualités locales, et on va enchaîner avec le 15 de France, avec toi Paul.
Et oui, tout à fait. Ce samedi se déroulait le second match des Bleus au stade Matmut Atlantique de Bordeaux, où ils affrontaient les Fidji. Une semaine après leur défaite face à l'Afrique du Sud, les hommes de Fabien Galthié avaient à cœur de rebondir et d'aller de l'avant. Et cela s'est rapidement ressenti. En seulement 18 minutes, les Français menaient 21-0 grâce à des essais de Nicolas Desporteré, Julien Marchand et Charles Yvon, tous transformés par Thomas Ramos. Bien aidés par le carton jaune infligé à Ravoutamada, les Bleus dominaient largement la rencontre. Mais comme face au box, ils sont ensuite retombés dans leur travée en laissant les Fidjiens revenir dans la partie. En l'espace de 12 minutes, les visiteurs inscrivaient deux essais, semant le doute dans les rangs français avant la mi-temps. Et cela allait se confirmer dès la reprise. 3 minutes après le coup d'envoi de la seconde période, les Fidjiens égalisaient. Tout était à refaire pour le 15 de France. Thomas Ramos redonnait de l'air aux siens grâce à deux pénalités portant le score à 27-21 avant que Nicolas Desporteré, déjà auteur du premier essai, n'en inscrive un second. La France s'impose finalement 34-21, mais l'écart ne reflète pas la pénibilité du match. Les Bleus ont souffert face à la puissance fidjienne et ont commis des erreurs qu'il faudra corriger avant le prochain et dernier match de cette tournée d'automne dans une semaine au Stade de France face à l'Australie. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce match si vous l'avez suivi?
Moi, je suis un peu d'accord avec toi dans le sens où c'est vrai que on s'attend à ce que notre 15 de France face aux Fidji, quand même, il montre une certaine domination, parce que contre les Springboks, contre l'Afrique du Sud, c'est vrai que ça avait été compliqué, mais ce qui est entre guillemets normal. Enfin, on sait que l'Afrique du Sud, c'est quand même une sacrée nation en termes de rugby. Et moi, j'avais aussi envie, justement, contre les Fidji, ils essayent d'un peu plus confirmer et de montrer, le 15 de France, ça reste quelque chose. Et il y a eu, comme tu l'as bien dit, des éléments et des phases de jeu où ça a été un peu moins bon. Donc, on espère qu'ils pourront se relever et qu'ils pourront montrer un peu une belle image pour les futures compétitions et notamment le prochain tournoi Destination.
Ouais, moi je te rejoins, Paulin, sur ce point-là. Que moi aussi, je m'attendais à une performance un petit peu plus aboutie de l'équipe de France. On a vu surtout beaucoup, beaucoup de fautes. Donc, il y a la victoire au bout, mais c'est vrai que dans le contenu, c'était pas exceptionnel. Ils nous ont beaucoup mis en danger, alors que, comme tu l'as dit, on s'attendait à, peut-être pas leur mettre une raclée, comme on peut dire non plus, mais un gros score. Après cette défaite un petit peu décevante au vu de la physionomie de la première période, on en avait parlé face aux Sud-Africains. Donc, un petit peu déçu de cette performance. Faudra assurer pour les prochains rendez-vous pour les Bleus.
Ouais, c'est ça, quand même. On a pu l'équipe de France qu'on avait ces dernières années, notamment à la Coupe du Monde, qui avait été certes une terrible désillusion contre l'Afrique du Sud, mais qui était quand même excellente sur le papier, qui aurait pu mériter clairement plus, qui aurait pu soulever cette Coupe du Monde. Là, va falloir se remettre dedans, retrouver Antoine Dupont un jour, ça va faire du bien quand il reviendra, mais faut être patient et ça va venir.
Tout à fait d'accord. Je vous rejoins sur les points et c'est vrai que c'est un match où on s'attendait quand même à un peu plus de domination des Français, car quand même, en 18 minutes, tu mènes 21-0, tu te dis que le match est quasiment plié et que tu dois juste continuer à dérouler. Et c'est dommage d'avoir un match qui a continué comme ça. Mais voilà, il y a le tournoi destination qui arrive dans 3 mois, va falloir reprendre des points. Le retour d'Antoine Dupont va sûrement faire du bien parce que c'est quand même le capitaine de cette équipe. Et on espère que ça se passera bien et qu'on ira rechercher un grand chelem.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on verra donc dans 3 mois pour le tournoi des 6 nations. On va continuer sur l'international bien sûr et sur le tennis avec toi Paulin.
Et oui, complètement, parce que la semaine dernière marquait la fin de la saison ATP de tennis avec le Masters de Turin. Les meilleurs joueurs du monde s'y retrouvaient, à l'exception de Novak Djokovic, forfait pour l'occasion, offrant la possibilité à Lorenzo Musetti de venir affronter les meilleurs devant son public. Donc pour cet ultime tournoi, tous les yeux étaient rivés forcément une nouvelle fois sur les 2 meilleurs du monde, ceux qui sont affrontés en finale sur 3 des 4 grands chelems de cette saison, l'Italien Yannick Sinner et l'Espagnol Carlos Alcaraz. Les deux rivaux ont répondu présents lors de la phase principale du tournoi, gagnant respectivement leurs 3 rencontres, l'Italien sans perdre le moindre set et l'Espagnol en lâchant seulement un face à Taylor Fritz. Ensuite, en demi-finale, Auger Aliassime pour Carlitos et Demi-Nord pour Yannick ont été de simples formalités. Tout le monde savait déjà à l'avance que les deux protagonistes du tennis se retrouveraient en finale. J'avais forcément coché cette journée de dimanche dans mon calendrier, c'était évidemment un rendez-vous à ne pas rater, mais qui allait s'imposer? Eh bien déjà, on pouvait donner un léger avantage pour l'Italien qui allait se retrouver devant un public prêt à l'encourager. Autre élément qui jouait en sa faveur et pas des moindres, il restait sur 30 victoires consécutives sur dur indoor, rien que ça. Mais attention, on ne pouvait évidemment pas enterrer Alcaraz, le panache et la foudre espagnole, capable de jouer un tennis aussi parfait que spectaculaire. Donc tout était en place, et voilà que les deux joueurs se rendent coup pour coup dans le premier set, sans jamais laisser l'autre prendre le service de l'adversaire, jusqu'à se retrouver dans un jeu décisif après presque 1 heure de jeu. L'un d'eux, donc poussé par son public, s'est montré plus fort, et c'est bien Sinner, impeccable de justesse, qui s'en est allé remporter la première manche, serrant son poing vers son clan sous les tonnerres d'applaudissements du public italien. Carlitos n'est néanmoins pas sorti de son match et est allé breaker l'Italien d'entrée, me laissant penser devant ma télé que ce match était loin d'être terminé. Seulement, Alcaraz s'est montré diminué tout au long du deuxième set, il s'est fait débreaker et la machine Yannick Sinner était de nouveau relancée. Toute la salle a senti le moment arriver et lorsque Sinner a mené 6-5 service Alcaraz, il a actionné son meilleur tennis pour prendre le service de l'Espagnol et s'octroyer son deuxième Masters de suite. Malgré qu'il n'ait pas fini la saison avec le titre de numéro 1 mondial, c'est bien lui qui finit sur le toit du monde, ayant joué un tennis absolument parfait, avec quasiment aucune faille, une régularité déconcertante et une faculté à toujours pouvoir inverser la tendance quand il semble en difficulté. Moi, il y a quelque chose qui m'a assez surpris et que je pense que de match en match, en fait, il y a des choses qui changent avec Sinner, c'est que sur les matchs que j'ai pu regarder où il jouait, en fait, que ce soit contre Zverev ou Zverev a vraiment fait un très très bon match face à Sinner, mais en fait, dès que Sinner était en difficulté, c'est-à-dire qu'il avait à affronter une balle de break de Zverev, ou alors qu'il était en difficulté sur son, même sur le service de Zverev, en fait, qu'il pouvait breaker mais qu'il n'y arrivait pas, il trouvait toujours le bon moment et il inversait toujours la tendance du jeu. Plusieurs fois, Zverev a eu 3 balles de break à jouer et en fait, c'est un peu le sentiment. J'ai l'impression que tous les joueurs maintenant sur le circuit, ils pensaient en fait, ils sont dégoûtés et leur expression et comment ils agissent en fait physiquement. Tu sens que Zverev, il regardait son clan, il était dépassé parce que dès qu'il avait une balle de break, Sinner il claquait un ace, il claquait une super première balle et derrière il enchaînait sur un coup droit ou une volée. Enfin, en fait, là, j'ai vraiment l'impression que maintenant, l'erreur chez lui, c'est presque peu commun en fait. La partition est quasiment parfaite et le moment donné où ça chute, il trouve toujours ce qu'il faut pour pouvoir repasser devant. Et du coup, moi c'est ça en fait ce qui m'a choqué sur les derniers matchs qu'on a pu voir de lui et surtout sur ce Masters parce qu'il a, c'est vrai que j'ai pas noté, mais je crois pas qu'il se soit fait breaker. Je pense qu'il s'est pas fait breaker une fois. Et en plus de ça, il a pas perdu un set. Il a pas affronté n'importe qui. Il a affronté même si Zverev c'est plus Zverev, il a affronté quand même Zverev. Il a affronté des joueurs comme Demi-Nord qui l'a un peu fait douter. Vous, je sais pas ce que c'est votre sentiment si vous avez vu un petit peu Sinner jouer et notamment ce match face à Alcaraz, mais c'est vrai qu'on se dit que peut-être que là vraiment il est passé un peu au-dessus d'Alcaraz.
Ouais, en tout cas sur dur, faudra revoir sur terre battue.
Bah sur terre battue c'est autre chose, mais au moins sur dur. Ouais.
Sur dur, ouais, on voit qu'il y a une domination, mais qui est stratosphérique. Pas perdre un set contre des joueurs comme ça, c'est immense. Et comme tu disais, en fait, c'est vraiment le tennisman hybride qui sait tout faire, qui sait tout faire parfaitement. Il sert, il te fait des volées, il court tout le terrain, il envoie des balles à 200 km/h sur des coups droits. C'est juste stratosphérique ce qu'il fait. Et il faudrait que Alcaraz hausse une fois de plus son niveau de jeu à quelque chose de terrible pour essayer de rivaliser. Et elle cherchait sur dur, mais en tout cas c'est une rivalité excellente qu'on a là, un peu quand même de domination de Sinner, mais ça reste magnifique.
Ouais, et puis comme tu le dis, en fait on a, c'est un peu comme à Roland où on a eu le Alcaraz qui est passé dans une dimension un peu inatteignable presque, où du coup il a réussi à renverser Sinner, et après on a vu à Wimbledon où c'est Sinner qui était vraiment le maître du jeu sur ce moment-là, il a gagné, et à l'US Open ça s'est encore inversé, Alcaraz était plus fort, Sinner était un petit peu en dessous, et en fait on sent que si on a un des deux qui est un peu en dessous, forcément l'autre va prendre l'ascendant, mais si Sinner joue son tennis parfaitement et si Alcaraz joue son tennis parfaitement, c'est Sinner qui aura quand même le dessus. Qu'Alcaraz il ait ce push de talent,
grain de folie,
vraiment le grain de folie, exactement. Donc je sais pas vous les gars ce que vous en pensez, Robin, Paul, mais c'est vrai que ça, c'est assez fou.
Je suis tout à fait d'accord, enfin il est devenu complètement chirurgical, enfin on a l'impression que chaque balle qu'il touche il les bonifie d'une manière exceptionnelle. J'ai regardé un peu le match dimanche et vraiment genre les coups droits, t'avais l'impression qu'Alcaraz n'avait rien, même si bon il était un peu diminué, mais ça n'enlève rien parce que vraiment Sinner a dominé de la tête et des épaules ce match. Et c'est ça qui est, je trouve, exceptionnel, c'est que même il est devant son public, il est très bien dans un match comme ça, et il le montre, il le prouve, et il prouve que c'est peut-être le meilleur tennisman actuellement, comme tu le dis, sur indoor, et peut-être même sur tous les terrains. Et je pense que l'année prochaine, il va peut-être enfin essayer de nous prouver que sur terre battue aussi, il ne rigole plus, et que peut-être qu'il va essayer de nous faire encore une magnifique saison, et j'espère pour lui, parce que il joue un tennis exceptionnel.
Ouais, c'est sûr. Et toi, Robin?
Moi, je rejoins Paul sur l'aspect que c'est sûr que sur indoor, en fait, moi, je le trouve. Il y a un truc que je trouve chez lui que je trouve pas forcément chez Alcaraz, c'est que lui, en fait, il a vraiment cet aspect robotique. C'est-à-dire que outre la finale de Roland où il mène une partition exceptionnelle lors des deux premiers sets, etc., et où il y a ce changement et que Alcaraz devient phénoménal et à la limite, il était vraiment au top du top du top. On a chez Sinner ce truc où il n'y a pas forcément chez Alcaraz, c'est vraiment robotique. C'est-à-dire que t'as l'impression que il va jamais perdre. Il ne perdra jamais. Que Alcaraz, il mène aussi, il produit vraiment un tennis exceptionnel. Mais il y a ce, par exemple, on l'a vu notamment lors du Masters 1000 à Paris, où il y a ce sentiment où des fois il peut pêcher et il peut passer à côté de la trappe. Alors que chez Sinner, comme je l'ai dit, outre la finale de Roland, c'est juste impressionnant, tu te dis que le gars va jamais perdre, quoi, et qu'il va tout rafler.
C'est complètement ça. Il est assimilé à ce cyborg un petit peu, mais moi je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis que j'ai l'impression que chez lui l'erreur est quasiment impossible, parce que, en fait, t'as l'impression que toutes les balles, il va les négocier correctement. Et y a un peu ce truc aussi où t'as l'impression que mentalement, même si je trouve Alcaraz aussi très impressionnant dans sa capacité à toujours être dans la positivité, t'as l'impression que lui, il a beau se passer n'importe quoi, il sera toujours dans son match, et en fait, il arrivera toujours à rester dans sa partie. Et s'il faut, il renversera. Mais en fait, il a même pas à le faire. C'est ça, moi, qui me choque, c'est que pour l'instant, en tout cas sur ce Masters, il a pas eu à renverser une partie. Il a pas été mené d'un set. Il a pas été dos au mur. Donc, c'est pour ça que il faut voir aussi comment dans ces situations-là, en fait, parce que il se met même pas dans cette position justement où il est un peu affaibli, parce qu'il est tellement fort dès le début et il a tellement cette faculté à être régulier dans son niveau de jeu que ça reste impressionnant. Donc là, forcément, on peut se poser la question. Enfin, on sait très bien que au vu du tennis qu'on voit, au vu des joueurs qu'il y a l'année prochaine, ce sera encore du Sinner-Alcaraz, le duel qu'on reverra. Après, la question, c'est est-ce que Sinner est capable de garder ce niveau et d'aller chercher du coup un Roland, Wimbledon, l'Open d'Australie, l'US Open. Est-ce qu'il est capable de faire le Grand Chelem? Est-ce que Alcaraz va il nous écoute, il va dire par contre les gars vous êtes mignons, mais enfin à un moment donné moi je suis là aussi, bonjour, quoi. Donc exactement, hola Carlito.
<Bien dit. rire>
Non mais c'est sûr que voilà, moi je pense que bon, la rivalité on la verra encore de plus en plus, mais voilà, on attendra encore ce Roland où on verra si Sinner peut prendre un peu sa revanche, mais Alcaraz il se laissera pas faire, donc on sait forcément leur duel sera encore fou à suivre, et on a hâte de suivre tout ça. On va passer on sort un peu du circuit ATP et on passe à la Coupe Davis, où en ce moment on a le Final 8 qui se joue à Bologne. À croire que le tennis n'a pas non seulement le meilleur joueur du monde en Italie, mais en plus ils accueillent tous les événements parce qu'ils ont accueilli le Masters à Turin et là c'est la Coupe Davis à Bologne. Ils se régalent, les Italiens, niveau tennis. Donc les Français, ils affrontent en ce moment les Belges en quart de finale, et Corentin Moutet s'est malheureusement incliné face à Raphaël Collignon tout à l'heure 2-7-1 après avoir gagné la première manche, ce qui fait que en fait ça nous laisse Arthur Hinderknecht un peu dos au mur. Il est obligé de gagner face à Zizou Berg. Seul problème, il a perdu le premier 7-1 1-0. Enfin, pardon, il a perdu le premier set, forcément, c'est 1-0, mais 6-3. Mais par contre, il est mené 5-3 dans le deuxième, ce qui fait qu'il a un break de retard. Donc, ça va vraiment être très compliqué pour nos Français. Alors qu'il y avait la place, parce qu'on était dans le tableau d'Italie et Sinner, il prend des vacances, donc il sera pas là. Donc, c'est vrai que, malheureusement, pour nous, à moins d'un exploit de Rinderknecht, ou du coup, on pourra peut-être en parler la semaine prochaine, ça paraît complexe. Mais bon. Ouais.
On va voir ce que ça va donner quand même dans la suite de l'émission pour ce match, mais ça risque d'être très compliqué. La France dos au mur dans cette Coupe Davis. Voilà pour le tennis. On va passer une pause musicale avant de retrouver la NBA et le football. En pause musicale, on avait du sport ce week-end, mais pas que. Il y avait aussi du rap avec la finale de Nouvelle École. Et moi, je vais vous proposer un son qui est sorti plus tôt pour ne spoiler personne. Ce sera le Cypher de la team SDM tout de suite sur Radio G.
Omnibulé par le pouvoir, je poutine Kadhafi Muhammad. Avant de partir, je dois rendre tous les devants, je dois viser les polos, je dois guérir mes poudres. On parle une fois pour voir si t'es attentif. Je lui mets une presse intensive. C'est dans ces sous-tensions, pas de prohibition, mon produit addictif. Je suis un homme, je peine quand c'est trop tard. Mon psychologue, si doré, il va sol. Si doré, mi va sol, on se casse le boule, tu crois que c'est facile. Sur le champ de mine, j'ai fait que danser. De l'équipe, tu peux m'évincer. À romancer, y'a que mes erreurs, ça fait longtemps qu'y a plus rien sensé. Ma mère porte le voile, mais là, je fais des rappels. Maintenant qu'il y a du buzz, tu m'appelles, tu me fais laquelle.
J'ai moins de contacts, j'ai moins de problèmes.
No cap, no fake, on change pas de thème.
Au calme, nos stress, on garde nos têtes froides. C'est trop facile, tu rentres dans le del. Pourquoi tu cherches les problèmes? Tu sais très bien qu'il va gagner. Pourquoi tu cherches les problèmes? Tu sais très bien qu'il va gagner. J'arrive comme une éclipse, je compte bien viser dans le mille. J'ai plus peur du vide, maintenant à qui le tout. Les grands de la ville m'avaient dit faut mailler. Tant que j'ai pas l'osé, je vais jamais tailler. Maman m'a dit faut pas s'apitoyer. C'est pas tes larmes qui vont payer le loyer. Mon gars c'est méchant un peu comme nous. La vie nous a dit chance, c'est pas contre vous. Jamais à terre j'ai mis le genou. Ma fierté d'abord je vais mourir de vous.
7-7 médusé par l'argent du coffre. 100k pas assez pour toutes les portes. Loupe pas depuis le départ on loupe pas le coche. Je rentre pas tant j'ai pas écoulé la drogue. En 4-4-2 chez nous tout se passe en 4-4-2. Je sais pas si c'est moi mais c'est pas eux. Je suis dans mon délire, je suis pas comme eux.
Je pointe avec les bâtards qui pénavent mal. Mon tape, j'ai sauté les pieds dans le plat. Même avec un tir, je les démarche pas. J'ai pas pété, je vois, je t'emballe. Je mange ton bail, je cache ton bonheur, je monte le sale. Puis vite, je me taille. Son c'est pas l'heure, je switch en calage. Les bêches, j'ai pas d'âme, je casse leur cadre.
Tu possèdes l'amour, mais tu n'as pas le temps. Tu veux faire des plats avant, tu n'as pas le cran. J'ai pas tourné ma veste, j'ai pas changé de camp. Jamais je vais te mentir, je fais pas semblant. Je crois qu'on peut pas se ressembler. Faut fumer tous les bâtards de l'assemblée.
J'ai trop d'insolence, j'ai t'absemblé. Je donne la moitié, t'es en carence d'air. Pourquoi tu cherches les problèmes? Tu sais très bien qu'il va gagner. Pourquoi tu cherches les problèmes? Tu sais très bien qu'il va gagner. J'arrive comme une éclipse, je compte bien viser dans le mille. J'ai plus peur du vide, maintenant à qui le tout. Les grands de la ville m'avaient dit faut mailler. Tant que j'ai pas l'osé, je vais jamais tailler. Maman m'a dit faut pas s'apitoyer. C'est pas tes larmes qui vont payer le loyer. Mon gars c'est méchant un peu comme nous. La vie nous a dit chance, c'est pas contre vous. Jamais à terre j'ai mis le genou. J'ai la rage et je dois vaincre. J'y mets mon cœur, je fais le meilleur vin. Je le fais pour mes bandes ou pour mes uns. Gros fait bélé qu'on vient pour étendre.
Et voilà, c'était le Cypher de la team SDM de la série Netflix Nouvelle École, évidemment. On va repartir tout de suite. Vous nous suivez depuis le site internet www.radio-g.fr ou bien depuis le 101.5 FM ou bien encore depuis YouTube en direct ou bien Twitch. On est sur toutes les plateformes. Vous pouvez nous voir sur les caméras et vous pourrez participer sur le chat si vous le souhaitez en fin d'émission pour le petit quiz que nous a concocté Robin. On va partir sans plus tarder sur un nouveau sujet d'actualité internationale et on va parler de basket, de NBA avec Paulin, enfin avec moi-même et Paulin, et on va commencer par parler de l'actualité la plus fraîche et la plus impactante pour nous Français, c'est la blessure de Victor Wembanyama qui va une fois de plus être écarté des parquets suite à une élongation au mollet. Il va donc être écarté pour plusieurs semaines. Après, il serait réévalué d'ici 2-3 semaines de ce que disent les Spurs. Un gros coup dur pour lui qui faisait un super début de saison. On en avait parlé, hein, évidemment. Il était dans les débats MVP, dans le top 5 pour ce début de saison et sans aucun doute le meilleur défenseur de ce début de saison. Les Spurs affichaient un bilan de 9 victoires, 4 défaites avant sa blessure. De'Aaron Fox venait seulement de revenir. Et ben, on va espérer que cette blessure ne l'éloigne pas trop longtemps des parquets, parce que pour être éligible aux trophées de fin d'année, des trophées individuels, donc le MVP, le meilleur défenseur de l'année, même intégrer des All-Star, Team All-Star NBA à la fin de la saison, faut avoir joué au moins 65 matchs, c'est ce qui lui a fait défaut la saison dernière pour ne pas avoir le DPOY. C'est un gros coup dur, Paulin.
Ouais, c'est... Bah, un peu comme tout Français qui regarde la NBA, on est un peu tous dégoûtés parce que bah en fait le début de saison qu'il nous fait, on se rend compte qu'il est monstrueux et moi je me souviens parce que quand on a fait nos prévues un petit peu, moi je disais ouais faut pas trop s'emballer ou MVP pas déjà mais en fait
les trois premiers matchs qui pondent.
MVP oui bon d'accord. En fait le problème c'est qu'il y a des mecs stratosphériques à côté de lui, mais au-delà de ça, il est monstrueux. En fait, il est à 26 points de moyenne, il est à 13 rebonds. Il doit être à peu près à 4-5 passes et à 4 contres de moyenne.
Ouais,
c'est un truc hallucinant, en fait.
Vraiment, j'ai jamais vu.
Il est monstrueux. Les Spurs, en plus de ça, sont très très bons. Et justement, le titre de MVP, tu le donnes pas à n'importe qui, tu le donnes à un joueur où l'équipe gagne. Et bah lui, si les Spurs continuaient sur cette lancée-là, avec un bilan positif et une place par exemple de 5e ou 6e à l'Ouest, bah oui, clairement, c'est suffisant pour te donner le titre de MVP. Et le titre de DPOY, bah j'ai envie de dire, il est déjà acté pour lui. Donc en fait, c'est ça qui est compliqué. On espère que niveau gestion et niveau soins, en fait, ça va aller pour qu'ils puissent revenir et que derrière, ils arrivent à gérer pour qu'ils puissent faire ces 65 matchs et être éligibles aux récompenses, et même au All-Star Game, parce que, en fait, on a envie aussi qu'ils jouent, qu'ils soient là au All-Star. Donc, on est déçus, mais on espère qu'il reviendra. Et c'est surtout, pour moi, un joueur dans le profil de Wemby, on sait pertinemment qu'il fera pas tous les matchs de la saison.
Non.
C'est un profil atypique, c'est un profil qui peut...
Sujet aux blessures.
Exactement, sujet aux blessures. Donc, on sait que potentiellement peut y avoir des blessures. Après, on se régale tellement à le voir sur le terrain et à les responsabilités qu'il est en train de prendre. Surtout que, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais dans son jeu, autant l'année dernière, moi j'étais là, je disais, il est bon, mais les 3 points, calme-toi, tu vois. Quand tu prends 10-3 points par match, c'est compliqué. Et là, en fait, maintenant, quand tu regardes ses stats au tir, il finit le match, il est à 3/4 à 3 points, 2/3 à 3 points. En fait, il en prend le nombre qu'il faut.
Certains matchs où il s'est fait un peu plus plaisir sur les 3 points.
Il a eu des petites sorties et d'ailleurs il a eu 2 petits trous d'air là. Il a eu 2 matchs où
les Suns et les Rockets, il me semble.
Où il fait un espèce de 9 points et 14 points, tu vois.
Ça, ouais.
J'ai envie de te dire, d'accord, t'as le droit, tu vois. On va pas te taper sur les doigts parce que tu fais 2 perfs moyennes. Parce que les défenses aussi s'adaptent sur toi. Mais non, c'est clairement un coup dur et pour les Spurs et pour nous et pour Wemby. Mais en tout cas, j'espère. Je réagis juste parce que Rinderknecht a débriqué en live, donc peut-être qu'on est encore en course.
On a de l'espoir pour le
voilà, français. Donc il y a un français peut-être qui pourra nous faire vibrer. En tout cas, pour revenir à Wemby, on espère qu'il reviendra vite sur les parquets.
Mais ça, faut faire attention aussi à cette élongation du mollet. C'est la blessure qu'avait eu Tyrese Haliburton juste avant de se faire son tendon d'Achille, d'avoir la rupture du tendon d'Achille en finale NBA la saison dernière. Donc c'est une blessure qui peut faire peur. Je veux dire, faudra pas se précipiter à le relancer trop vite pour qu'il puisse jouer ses 65 matchs au risque de voir une blessure encore plus grave comme un tendon d'Achille qui serait terrible pour lui après sa thrombose veineuse de la saison dernière. Doucement sur Victor. On veut l'avoir aussi en équipe de France pas cet été du coup parce qu'il y a pas de compétition internationale cet été, mais au moins pour la saison prochaine, l'été prochain, le voir avec l'équipe de France, ça ferait fortement plaisir, en espérant du coup qu'il reviendra à son meilleur niveau aussi en NBA. Deuxième sujet un peu plus léger, un peu plus qui nous fait un peu rire, c'est le fait que Nico Harrison ne soit plus le general manager de Dallas. Je l'avais évoqué la semaine dernière très rapidement. J'aimerais avoir un peu ton petit avis là-dessus. Qu'est-ce qu'on a pensé du mandat de Nico Harrison ?
Moi, je trouve que c'est complètement une honte. En fait, il n'y a pas de mots parce que déjà, les Mavs, ils sont en 4 victoires, 11 défaites en ce début de saison. Et j'ai envie de dire, tout va mal parce que déjà, ils ont eu la chance d'avoir le numéro 1 de la draft. Parce que En fait, si déjà on enlève ce point-là, donc il a tradé Luca pour Anthony Davis et Max Christie et puis quelques tours de draft. Enfin, déjà Anthony Davis, tu sais que lui aussi c'est un joueur sujet aux blessures. Et comme par hasard, il a fait quoi? Il a joué 4 matchs sur ce début de saison.
Il était excellent, mais
ah oui, mais de toute façon, quand il est sur le terrain, il est très bon. Mais le problème, c'est que si tu joues 20 matchs à la saison, tu vas pas te permettre de faire gagner ton équipe. Et on parle de Luka Doncic, quoi. Enfin, Luka Doncic, je pense que j'ai pas besoin de rappeler ses performances de début de saison. Il est exceptionnel. Il a commencé la saison avec 2-3 matchs à plus de 40 points. Il a eu une semaine d'absence à cause d'une petite blessure au doigt, mais derrière, il revient et il envoie encore du triple-double et des grosses perfs. Donc non, c'est peut-être un des moves les plus horribles de l'histoire de la NBA, je pense. Enfin, tu trades pas Luka Doncic, qui est enfin un des meilleurs joueurs de la ligue, l'image de ta franchise, et tu l'envoies comme ça aux Lakers, qui se régalent d'ailleurs les Lakers en début de saison, parce qu'ils font un début de saison exceptionnel. Hein. Ils sont en combien? Ils sont en 10 victoires, 4 défaites. Et il a été absent, hein, Luka, donc c'est très très bien pour.
Et LeBron
n'est pas là, oui, c'est vrai.
Il me semble qu'il va peut-être revenir dans le prochain match ou celui d'après. Il était mis sur l'affiche, il était assigné à l'équipe de G League le temps un instant pendant que Bronny lui démarrait, était avec dans le sac majeur des Lakers. C'est une belle histoire, mais ouais, c'est clair que au début, quand on a vu ce trade, on s'est dit c'est peut-être win-win. On sait pas.
Mais
là,
ouais,
c'est clairement une grosse win des Lakers et les Mavs qui ont tout perdu. C'est malheureux pour cette franchise, mais j'ai envie de dire, c'est un peu ce que un truc qui a déclenché quelque chose chez Luka Doncic aussi, à perdre du poids, à se remettre en forme, à se réathlétiser. Et c'est peut-être un électrochoc qui l'électrochoc qu'il lui fallait.
Mais ouais, mais c'est surtout que, enfin, en vrai, le choix là, moi avec du recul, j'arrive pas à le comprendre et j'arrive même pas à comprendre comment j'ai pu me dire dans ma tête, ouais, ok, je peux comprendre, alors que non, en fait, parce que quand tu regardais les Mavs, bah il y avait quand même Kyrie qui était pas blessé. Là, en vrai, les Mavs, en fait, c'est juste que c'est l'hécatombe des blessures. Et Cooper Flagg, on reste un peu sur notre faim. Il joue 35 minutes par match.
Surtout quand tu vois deux trucs qui
exactement. Surtout que lui, pour le coup, alors ok, ils ont testé de le jouer meneur, on sent que c'est pas la, enfin, il pourrait, mais pas déjà, faut qu'il joue à son poste. Mais ce qu'il y a, c'est que, tu vois, il joue quand même 30 minutes, 35 minutes par match, et on le voit pas exploser. Alors, c'est que une première saison, c'est qu'une saison rookie, mais voilà, on se dit, ça peut être compliqué. Donc, ouais, les Mavs, c'est cata, Nico Harrison, c'est bye bye, et du coup, les fans des Mavs, on leur envoie tout notre soutien, parce que c'est pas facile.
Je pense qu'ils ont été assez heureux d'apprendre cette nouvelle.
Ça c'est sûr.
Il a dû être un peu chassé de la ville, à mon avis, Nico Harrison, après s'être fait virer, mais bon, force à lui quand même. Petit dernier sujet, je pense après on pourra aller sur l'équipe de France de football, c'est, tu parlais des équipes qui s'en sortent très bien et des monstres qui entourent la conférence Ouest notamment. Et on va parler du Thunder, 14 victoires, une défaite, et cette stat qui est beaucoup sortie cette semaine, c'est que Shai Gilgeous-Alexander n'a participé qu'à 6 des 15 derniers quart-temps qui ont été joués par le Thunder. La preuve que le match, troisième quart-temps, emballé se pesait, on repose notre superstar et il a quand même fait son match.
Ouais, mais c'est assez terrible. Honnêtement, faut les sortir de la ligue. C'est OK, ici, c'est pas possible.
Voilà, donnez-leur une bague et les autres y jouent.
Mais en fait, moi je me dis, mais le GM, là, Sam Presti, mais quel incroyable le taf qu'il a fait. Enfin, genre quand tu revois là, quand tu reprends les années en arrière là, le trade Paul George, du coup qui part de Casey pour aller aux Clippers, et en fait ils prennent Shai, qui est pas encore le joueur qu'il devient, mais bon là maintenant c'est un joueur all time. Et derrière, en fait, dans les tours de draft qu'ils ont envoyés, il y avait Jalen Williams, et Jalen Williams c'est son bras droit. Alors il a pas joué un match de cette saison, ce qui est encore plus bluffant, parce que les mecs sont injouables, ils sont en 14-1 et leur deuxième meilleur joueur ne joue pas. Non, ils sont trop forts, il y a rien à dire. Je vois même pas. Et pourtant Denver, alors ouais, c'est peut-être le petit bémol, la grosse confrontation Denver OKC en playoff, ça peut être exceptionnel.
Ouais.
Mais à part Denver, je vois aucune équipe aller chercher OKC, que ce soit à l'est, à l'ouest. Franchement, ils sont trop forts. Ils sont même pas au complet. Et en plus, c'est qu'ils gagnent leur match avec un écart de fou. Et Shai, il a 32 points de moyenne, alors que le mec joue 30 minutes par match. C'est trop fort. Trop fort.
C'est clairement le rouleau compresseur là de la NBA. Et peut-être enfin un dernier mot sur le leader à l'Est cette fois. Ce ne sont pas les Knicks, Désolé. Même les Raptors sont devant les Knicks. Mais enfin bref.
C'est terrible. C'est vrai en plus.
Mais c'est bien les Pistons qui sont donc leaders à l'Est avec un énorme Cade Cunningham qui va même avoir sa paire signature chez Nike.
Ouais, et alors Cade Cunningham, incroyable. D'ailleurs, il a fait une sacrée perf où il prend le plus gros nombre de tirs dans un match.
45.
Sauf qu'en fait, il met, je crois, il finit à 46 points, mais il est à 13 sur, 40, ouais, sur 45 au tir.
40 shoots, c'est énorme.
Mais par contre, alors il y a Cade qui est incroyable et qui commence à émerger comme un des meilleurs meneurs de la conférence
Est. Franchise player, clairement.
Mais il y a un autre joueur que moi j'aime beaucoup et je l'avais pas mis dans mes MIP, mais là du coup c'est un gros candidat, c'est Jalen Duren, le pivot des Pistons qui est en train d'allumer toutes les raquettes en NBA. Là, il a encore mis 31 points, 15 rebonds cette nuit et il l'a fait pas mal de fois. Là, il est à 20 points de moyenne et plus de 12 ou 13 rebonds. Donc lui, il est assez incroyable et on sent que les Pistons de l'année dernière qui avaient bien fait chier les Knicks justement en play-off, ouais, où c'était tendu.
On s'en rappelle. Ouais.
Et ben là, franchement, j'aimerais pas les revoir ces Pistons si je suis les Knicks en play-off parce que je ferais pas le fier. Clairement.
Ouais, je pense clairement à l'Est, c'est l'équipe qui fait la plus peur pour l'instant avec les petits absents qu'on a à Boston notamment qui est tombé bien bas avec l'absence de Jason Tatum. Mais ouais, les Pistons, pardon, c'est clair qu'ils sont très en forme en ce début de saison et ils font très peur. Ils ont de quoi aller chercher très haut dans cette conférence Est, qui est justement un peu moins relevée, on va le dire, que la conférence Ouest qui joue à un niveau complètement stratosphérique. Voilà pour la NBA. On va passer sans plus tarder au football avec l'équipe de France, Robin.
Exactement, on va parler un petit peu des Bleus puisque cette semaine c'était la trêve internationale et contrat 100% rempli pour nos Bleus, avec en poche leur ticket pour la Coupe du Monde décroché dès jeudi avec une victoire 4-0 face à l'Ukraine. Après une première mi-temps plutôt fermée, l'équipe de France a su débloquer la situation en seconde période, d'abord par l'intermédiaire de Kylian Mbappé sur penalty peu avant l'heure de jeu, Michael Olise ensuite pour le 2-0 avant que Mbappé n'inscrive un doublé et son 400e but en carrière à la 83e minute. Plutôt en avance, donc 400e but en pro, en avance sur des certains Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Donc assez impressionnante cette stat. Et enfin, dans les tout derniers instants du match, Hugo Ekitike vient inscrire son premier but sous les couleurs bleues pour sublimer la victoire de nos Français. Ticket décroché donc pour les hommes de Didier Deschamps pour le Mondial en Amérique, avec par conséquent un déplacement en Azerbaïdjan ce dimanche, abordé de façon plus tranquille. Le sélectionneur a d'ailleurs fait tourner son effectif, avec notamment la première titularisation de Magnès Akliouche, Kefren Thuram et Lucas Chevalier, qui ne va pas l'honorer de la meilleure des manières, puisque c'est dès la troisième minute qu'il concède l'ouverture du score. Les Bleus ont tout de même réussi à se mobiliser et rapidement inverser la tendance par le biais de Mateta, Akliouche, puis un contre-son-camp azerbaïdjanais, juste avant la fin de la première mi-temps. Le deuxième acte, malgré aucun but, a été géré parfaitement par nos Bleus qui finissent avec sérieux leur tournée d'automne et leur phase de qualification, terminant donc avec un total de 16 points sur 18 possibles. Autour de la table, les gars, qu'est-ce qu'on en a pensé de ces petits matchs cette semaine des Bleus, plutôt satisfaits? Ils ont relevé le défi, quoi. Le défi plutôt simple à la base, mais fallait le faire.
Ouais, bah, comme tu le dis, fallait le faire, fallait prendre les points et ils l'ont fait. C'est le principal. Maintenant, faut se tourner sur ce qui va arriver au mois de juin, c'est-à-dire la Coupe du Monde. Mmh. Faut espérer que le jeu produit en deuxième mi-temps contre l'Ukraine continue sur cette lancée parce que c'était du beau jeu. Et, faut espérer que les joueurs qu'on attend tous, comme le Ballon d'Or Dembélé, reviennent et puis nous permettent de nous sublimer sur cette compétition.
Ouais, et puis si on a un Michael Olise au niveau de sa deuxième mi-temps face à l'Ukraine, ça peut vraiment faire énormément de bien, hein. Franchement, on voit qu'il y a le talent dans cette équipe et il nous manque quelques joueurs. Alors j'aime beaucoup Jean-Philippe Mateta, mais en fait c'est que c'est un profil, je trouve, qu'on a eu avec Giroud et qu'on aurait pu forcément. Alors parce que Marcus Thuram, moi je le trouve quand même un peu différent dans le jeu en fait par rapport à ce que peut apporter Mateta et en vrai pour moi ouais ce serait Giroud qui se rapprocherait le plus du profil qu'est Mateta, mais derrière en fait on a plein de solutions offensives. Notre milieu de terrain, en fait il faut voir aussi qui est-ce qui prendra pour la Coupe du Monde.
Ça pêche un petit peu. Ouais,
parce que tu vois, il a ramené Kanté qui a pas été
très très bon d'ailleurs, moi j'ai mauvais, il était
à la hauteur, ouais. Et on a l'impression que Kanté c'est un peu ce joueur où voilà, s'il est là il nous fera forcément du bien et il répondra présent. Donc moi le secteur offensif j'ai pas trop de peur en fait. C'est limite là où du coup il va avoir le plus de choix à faire, ou laisser des joueurs sur le côté, prendre les bons, etc. Mais après voilà, des les des failles défensives certaines. Moi, le duo Hernandez là contre l'Azerbaïdjan, on souffle un peu quoi. On sent que c'est des joueurs. Ce serait peut-être leur dernière apparition s'ils viennent au Mondial avec l'équipe de France. C'est juste qu'on sait qu'on manque de solutions, que ce soit au niveau des latérales gauche ou à droite. On sait que nous en Lucadine pour moi est vraiment bon et ouais. Je pense qu'il aura sa place s'il continue comme ça. Derrière, faudra voir, mais Malo Gusto, par exemple, aussi. Alors, à part sa petite boulette contre l'Azerbaïdjan, derrière, il a apporté des choses.
Un bon
aussi.
Match, franchement.
Donc, alors, il y a le but qui est refusé, mais bon, voilà.
Il fait
la passe D pour Mateta. Donc, il y a des bonnes choses. Forcément, c'est l'Ukraine et l'Azerbaïdjan. Mais au moins, on sait qu'on va au Mondial et les choses. On sait qu'on arrivera avec une équipe performante là-bas, ça c'est sûr.
C'était aussi l'occasion, je pense, de marquer des points pour ceux qui jouaient contre l'Azerbaïdjan ce dimanche, parce que il y a quand même quelques places à aller chercher pour ce mondial et il fallait se démarquer. Il y en a qui l'ont plutôt bien fait, je pense à Kliouche, du coup, Gusto également, ouais. qui ont fait des plutôt bons matchs. Après, voilà, comme tu le dis, Hernandez, surtout Théo, qui avait une place de titulaire en équipe de France il y a très peu de temps, il y a une ou deux saisons, qui là est petit à petit en train de perdre sa place, donc au dépend de Digne, du coup, donc ouais, on verra, il y aura des choix à faire pour Deschamps au niveau de la liste, donc à voir. Je pense aussi à Ekitike qui a marqué, a pas forcément brillé, mais je pense que ça sera un choix potentiel de Deschamps en fonction de sa saison, notamment à Liverpool, je pense sur sa deuxième partie de saison.
Ouais, tout à fait. En tout cas, l'équipe de France qui est qualifiée pour cette Coupe du Monde 2026, on les attendra évidemment. Ce sera l'événement de l'été, sans aucun doute. Et on espère aller le plus loin possible, comme l'a dit Kylian Mbappé en interview. Viser la demi-finale, non. Nous, on vise le titre. Voilà pour
on
le
a
volet.
L'équipe pour, hein. Non, forcément. Bah,
exactement. Ça fait trois saisons qu'on a l'équipe pour. On aurait pu faire un back-to-back, mais enfin bref. Ne revenons pas sur les choses qui fâchent. On va passer à ton petit quiz, Robin. Voilà, sur l'actualité sportive.
Ouais, exactement. Jusqu'au Toulouse. Donc, vous pouvez également jouer avec nous sur le 101.5, ou que ce soit par le site, sur Twitch ou sur YouTube également.
N'hésitez pas.
Donc, les gars, question un petit peu de rapidité. On commence doucement côté football. Alors, pour sa première titularisation, on en a parlé, Lucas Chevalier a battu un triste record depuis presque 100 ans. Quel est ce record?
C'est le but le plus rapide.
Ok.
C'est le plus rapidement.
Ouais. Point pour Faustin. En effet, but le plus rapide. Il me semble que c'était, qui date depuis 1935, ce record. C'est dur, en sachant qu'on sait que c'est compliqué aussi du côté du PSG. Ouais. Donc, voilà. Toujours sur l'équipe de France, question numéro 2. Mbappé, on l'a dit également, a atteint les 400 buts ce jeudi face à l'Ukraine. Il est le troisième français à atteindre cette barre des 400 buts en carrière. Mais qui est le meilleur buteur pour un point? Et approximativement, combien a-t-il de buts pour un autre point?
Benzema, non?
Benzema, un point.
Avec, c'est pas 620 buts.
Je vous laisse faire vos jeux.
J'aurais dit 529.
580.
Et c'est Faustin, encore une fois, qui est proche, qui est le plus proche. Il me semble que c'est ça. Moi, pour moi, ça tournait. Il y avait différentes sources. Ça disait 510, 501. Il y a des buts qui sont.
J'ai entendu Grégoire Margoton lundi.
Ouais, mais ça tourne autour de ça, exactement. Donc, deux points pour Faustin et un point pour Paul. Troisième question, plutôt pour nos basketteurs. Avec Wemby qui s'est donc blessé, comme on en a parlé. Il a infligé un dunk monumental face aux Warriors lors de la défaite 109-108.
Sur qui?
Et voilà, il avait anticipé la question. Exactement, point pour Paul.
Je pensais que début, je partais sur Kevin Durant. Il a infligé un dunk.
Et question rugby maintenant pour la quatrième question de Squeeze. Donc la France, on l'a dit avec Paul, a gagné 31-24 face aux Fidji. Avec donc, face aux Fidji, au total 10 victoires en 11 matchs, soit 91% de réussite. Question un petit peu plus corsée. Face à quelle nation la France a un meilleur ratio de victoire? Il y en a une.
L'Italie?
Ouais, ce que j'ai
L'Italie.
Dit.
Allez, bonne réponse du jeune Paul. L'Italie, c'était pas facile, mais bon, c'est vrai que c'est un peu une nation qu'on a l'habitude de jouer, notamment grâce au tournoi à destination. Donc,
on a l'habitude de battre surtout.
C'est vrai. Et question football, une nouvelle fois pour terminer, un petit peu également corsé. Ce mercredi, je sais pas si vous avez vu tourner, mais c'est le trophée du meilleur joueur africain qui sera attribué. Et quels sont, il y en a deux, les deux joueurs qui ont gagné le plus de fois ce trophée du meilleur joueur africain?
Mané?
Non.
Salah?
Non.
Attends, qui sont encore en activité?
Ils sont pas forcément en activité, okay. C'est dans l'histoire.
Yaya Touré.
Drogba.
Non.
Eto.
À égalité. Donc, franchement, c'est impressionnant. 4-4. Et puis, l'année dernière, c'était Ademola Lookman,
Je pensais que t'allais poser cette question.
De base,
je
pas cette question.
J'étais prêt à dire Lookman.
Et je me suis dit, est-ce que comment je la tourne? Donc voilà. Puis un petit jeu en question bonus, messieurs, vous pouvez participer également les internautes autour de la rencontre de ce week-end entre Toulouse et Angers. Donc, il va falloir me retrouver tous les buteurs, que ce soit du côté d'Angers ou du côté de Toulouse depuis le début de saison. Un point par
Franck Magri.
Franck Magri, c'est un point.
Sidi B.
Sidi B, deux points.
Sidiki Chérif.
Trois.
Prosper Peters.
Oui.
Esteban Le Poll.
Esteban Le Poll qui compte. Esteban Le Poll, ça compte.
Gbo.
Gbo.
Abdelhi.
Emerson.
Abdelhi. Emerson Camara. Contre Lyon. Camara contre Marseille, exactement.
Nos petits. Bah, en fait, Angers.
Camara.
Camara, bah, il vient de le dire. Du coup, face à Marseille.
Donum.
Donum, exactement. Trois buts avec Toulouse.
Après.
Est-ce que Angers, là?
Merci, je l'ai dit. Bah, Angers, on a Sidiki qui a marqué, Prosper Peters.
Belletti n'a pas marqué?
Non.
Imad Abdelhi.
Oui, mais il me semble qu'il l'a dit. Donc, il reste aucun joueur du côté du SCO. Et deux joueurs du côté de Toulouse.
Cresswell, Charlie Cresswell.
Cresswell, exactement, Cresswell. Il en manque un petit peu plus compliqué, sûrement.
C'est quoi, c'est un jeune? C'est
Je n'ai plus exactement. C'est quoi?
Par contre, je sais pas pourquoi j'en ai eu autant de Toulouse.
Franchement,
t'étais plus branché Toulouse.
Il était caché.
Le dernier de Toulouse.
Je vais peut-être vous donner sa nationalité. Je l'ai plus en tête exactement. Je vous donner des petits indices. Plus compliqué celui-là. Hein. Franchement, même moi, je l'avais pas réellement en faisant mes petites recherches.
À Toulouse, c'est pas l'équipe qu'on suit le plus en général.
Ah, non, franchement. Mais déjà, vous les avez quasiment tous eus. Même Sidi B qui n'est pas un grand marqueur, mais bon, il tire
Les pénaux. Il avait marqué sur pénaux.
Il tire les pénaux, Nice. Il tire les pénaux, exactement.
Et puis,
il me semble que c'est le premier match contre Nice, Et puis c'est contre Lorient la dernière journée. Alors c'est, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme indice qui pourrait un petit peu vous aider?
J'ai envie de les regarder.
Non, il est français, je sais pas, il est jeune, exactement. Je savais plus s'il était, il est très très jeune.
Mais il y a un nom, mais
8 matchs, 18 ans, 8 matchs avec Toulouse cette saison.
Moi je l'aurais pas.
Est-ce qu'il sort du banc ou il est titulaire?
Non, il est pas titulaire, aucune titularisation.
Mais c'est le petit jeune là. Mais non, je crois pas que ce soit le petit français qui a percé, qui s'appelle.
Il est français, mais
il s'appelle. Je sais plus. Mais un truc comme ça, non. Il y a pas un Z dans son famille. Non, donc c'est pas lui. Ok, c'est pas celui à qui je pense.
Colin face à lui-même.
Je pense qu'on l'aura.
Se triture la tête. Non, là,
c'est peut-être vous en avez déjà entendu parler. C'est Alexis Vossa. Compliqué, petit jeune qui sort du banc, forcément, voilà, mais en tout cas, sur ce jeu, je pense que Paulin a été pas mal. Ouais. Non, en règle générale, Faustin, petite victoire.
Faustin,
sur toutes les questions, plutôt de la jeu.
Paul a été bon. J'étais un peu la ramasse sur les premières questions.
Sur les buteurs.
C'est les buteurs du TFC, tu connaissais.
Voilà, tout le monde a gagné. Bravo, messieurs.
Ouais, dédicace à Mathéo, parce que Emerson, je sais qu'il a marqué, parce qu'il avait mis un double
face à Lyon. Exactement.
On pense à lui qui est en train de charbonner pour les cours, pour ses euros. Il sera sûrement de retour la semaine prochaine après avoir passé tous ses euros. Petit point tennis, Paulin.
Petit point tennis, on est clairement sur une balle de match pour les Belges. Là, c'est Zizouberg au service, sachant que Rinderknecht a eu une balle de 7. En fait, il a pu, à 6-5, il avait une balle de 7 pour remporter, mais Zizouberg est resté. Et là, il y a une faute, donc il y a 6-4 pour Zizouberg. Ce qui fait qu'il a encore un service pour essayer de remporter le match. Franchement, ça peut être compliqué. Si Rinderknecht, c'est maintenant, en gros, soit il fait le mini débreak, on va dire, pour essayer de prendre le point, soit ce sera la victoire pour les Belges. On va suivre ça en direct. Zizouberg, qui va s'apprêter à servir, c'est passé. Le retour de Rinderknecht, qui est plutôt dans les pieds, c'est assez bon derrière, elle est longue, et elle est vraiment sur la ligne, donc là, c'est assez chaud. Derrière Zizouberg qui essaye de tenir l'échange, je pense qu'on rentre sur un long rallye. Allez, c'est bon, c'est gagné pour les Belges. Et Zizouberg qui s'en va clairement et carrément célébrer avec son public. Donc nous sommes éliminés de la Coupe Davis.
Mauvaise nouvelle pour toi.
La semaine dernière, clairement. On avait vécu la séance de tir au but des Ducs contre Gap en direct. Les Ducs s'étaient imposés, malheureusement, en direct cette fois, le Le tennis français qui s'incline face à la Belgique.
Ouais, puis c'est un peu des illusions parce que quand on voit les deux tennismans qu'on avait, enfin moi je pensais pas qu'on allait perdre sur ces matchs-là parce que Rinderknecht, enfin je pense qu'on en a assez parlé pour savoir la fin de saison qu'il a fait, c'est assez incroyable. Donc déçu, et puis bah même Corentin Moutet, hein, il était allé en finale d'un tournoi 250 là qu'il avait perdu face à Medvedev. Enfin vraiment des mecs qui avaient le calibre d'aller chercher.
Et les Masters 1000 aussi, on n'oublie pas.
Non mais c'est pour ça. Rinderknecht c'était finale de Masters 1000 et puis à Paris je sais plus quand il était sorti, mais c'était pas, bah si, il était sorti contre son cousin aussi,
deuxième ou troisième aussi.
Ouais, donc mais c'est sûr que bon, c'est dommage, puis bon, la Belgique c'est pas non plus la plus grosse nation qui existe dans le tennis, donc ouais, c'est dommage, mais bon, on espère que nos bleus pourront revenir. Hein. Il n'y avait pas Hugo Humbert qui est quand même sur Durin d'or, quand même une référence hein, pour le coup. Lui, je crois qu'il a un des meilleurs pourcentages de victoires sur dur intérieur, donc il manquait. Et puis Arthur Fils, parce qu'Arthur Fils, c'est vrai qu'on en parle un peu moins en ce moment à cause de sa blessure qui date quand même, qui remonte à Roland, mais il montrait quand même des choses qui étaient assez incroyables. Oui. Donc,
est-ce qu'on va le retrouver? C'est ça. Est-ce qu'on va le retrouver à son meilleur niveau après une aussi longue blessure?
Ouais, c'est la question.
C'est
Je pense que c'est possible, mais comme vous dites, faut être patient. Mais en tout cas, dans ce qu'il montrait, il arrivait clairement à regarder droit dans les yeux les mecs du top 20. Il est même lui, il avait intégré le top 20. Donc, Arthur Fils, il est encore jeune. Pour moi, la plupart de nos espoirs vont reposer sur lui.
C'est sûr.
Un mec comme Rinderknecht, peut-être que justement, c'est un peu des moments de vie, des moments de sa carrière de tennis où là, il était un peu sur le devant de la scène. Mais est-ce que ça va durer à ce niveau-là tout le temps? Je suis moins sûr. Alors qu'un Arthur Fils peut être un peu notre numéro 1 français pour plusieurs années. En tout cas, on l'espère.
Avoir plus de régularité et de longévité. En tout cas, des illusions du côté du tennis français qui se fait donc sortir par la Belgique en Coupe Davis. Il nous reste un peu de temps, messieurs. Est-ce qu'il y a un sujet dont vous avez parlé? On parlait un peu de qualification Coupe du Monde. En off, on peut peut-être parler d'un pays qui est sur le déclin. C'est l'Italie, voilà, qui se régalait avec le tennis. Mais avec le football, c'est plus compliqué.
Ouais, c'est compliqué. Hein. On voit encore cette défaite. 4-1 face à la Norvège. Comme le disait Paulin, après une première mi-temps plutôt maîtrisée, où on se dit, on savait qu'il fallait gagner par 9 buts d'écart contre la Norvège, donc ça va être compliqué, mais on se dit, ils retrouvent
au moins une victoire.
Ils font bonne impression. Et puis, patatrac dans la seconde période, 4 buts.
C'est doublé d'Alain dans 2 minutes.
Non, mais c'était
catastrophique.
C'est terrible. En tout cas, c'est vrai que les Italiens, à part leur Euro 2020-2021, là, quand ils arrivent un peu à faire leur épopée, et que justement il y avait Jorginho qui avait fini après 3e du Ballon d'Or, parce qu'il avait gagné la Ligue des Champions avec Chelsea aussi. L'Italie, on sent que quand on voit le niveau de d'autres nations avec le talent qu'il peut y avoir, enfin. Par exemple, la Norvège, il y a du talent. Hein. Maintenant, la Norvège, ça devient une nation quand même assez sérieuse, hein, parce que déjà quand t'as peut-être un des meilleurs, ça se bat buteur du foot en ce moment, bah forcément t'es une équipe sérieuse. Donc non, l'Italie, c'est sûr que c'est à surveiller. Et puis il y a une autre petite équipe. Enfin, je pense que déjà ce soir il y a des affiches qui sont sympas. Il y a l'Écosse contre le Danemark, il joue pour la première place, la place qualificative directe au mondial sans passer par les barrages. Et puis il y a une autre nation, je pense que vous avez vu, qui a fait un peu kiffer, c'est l'Irlande. Ils ont commencé les barrages en perdant tous leurs matchs, ils ont gagné les trois derniers, et c'est sur des scénarios assez improbables avec une victoire face au Portugal, 2-1, avec un doublé et le carton rouge de
Ronaldo,
monsieur Cristiano Ronaldo, avec un geste un peu abusé. Peut-être un peu des
c'est la fin de carrière,
c'est ça. Oui, il est temps d'y aller, parce que quand tu joues pas, ta nation gagne 9-1. En vrai, c'était l'Arménie, voilà. Mais c'est vrai que l'Irlande, c'était pas mal, avec doublé de Troy Parrott, et derrière, ils sont menés 2-1 face à la Hongrie, et en 10 minutes, ils renversent le match, et ils finissent par s'imposer 3-2, avec encore un triplé de Troy Parrott. Autant vous dire que lui, à l'hiver, il finit à Chelsea, à Tottenham. Il était à Tottenham avant, mais il peut très bien retourner à Tottenham, où il va à Man U, etc. Mais lui, on le voit en PL, je pense à l'hiver ou l'été prochain, parce que les buteurs comme ça, ils en raffolent. Mais non, il y a des belles petites histoires. En tout cas, c'est vrai que même pour les barrages, je pense qu'il va y avoir déjà l'Italie à suivre, ça va être intéressant, mais il y a pas mal de nations où, sur ces matchs-là, on sait que c'est des matchs où tu mouilles le maillot et tu donnes tout parce que tu veux aller chercher ta place pour le mondial.
Et moi, je trouve peut-être une petite déception, c'est que j'avais bien aimé pendant l'Euro 2024, c'est la Géorgie. La Géorgie qui avait un beau potentiel offensif et qui finit la phase de qualification avec seulement 3 points.
C'est vrai.
Bon, c'était une poule compliquée. Il y avait l'Espagne, la Turquie, mais seulement 3 points. C'est une petite déception quand même. Donc, un petit peu déçu. Et puis, aussi, je la trouvais bien dans le jeu. Intéressante à regarder jouer. Donc, petite déception, mais bon.
Ouais, puis dans le même style un peu, mais encore plus grosse déception, c'est la Suède. Enfin, la Suède, je sais pas si
les deux défaites contre le Kosovo, etc.
Mais une catastrophe. Et la Suède, ils ont que un point, je crois.
Ils ont pris qu'une attaque. Isaac, Gyökeres, Elanga.
Et puis, non, mais t'as dit ça, exactement. Lui, il est blessé, mais t'as du talent. Hein,
mecs, oui, il y a une vraie équipe, en Suède, franchement. C'est
un bon Vivi, en plus, c'est dommage.
Ils ont pris Gary Potter, là, le coach qui est passé par Brighton, Chelsea, etc. West Ham aussi. Et ils l'ont pris là. Bon, lui, du coup, il a pas fait grand chose. Il a même pas eu le temps d'avoir un peu les clés du camion. Mais pour le coup, la Suède, c'est une nation qu'on peut attendre
à l'euro, quoi.
Au moins à l'euro,
même à la Coupe du Monde, à l'euro déjà, mais même à la Coupe du Monde, ils avaient leur place, etc.
Donc ouais, voilà, encore une nation un peu catastrophe.
Il en faut toujours des petites nations qui nous déçoivent. Là, on parlait de l'Italie, on a la Suède aussi, mais le plus important, c'est que la France, évidemment, est qualifiée et se retrouvera aux États-Unis cet été pour la Coupe du Monde. On va se laisser sur cette défaite malheureuse aussi du tennis français. Et on vous souhaite une bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine sur les antennes de Radio G.